Laudetur Jesus Christus.
Les médias chrétiens ont pour mission d'aider à former les consciences, en particulier dans les sociétés les plus sécularisées. Tel est le message du pape François ce matin. Le Saint-Père recevait en audience les membres de la rédaction de l'hebdomadaire catholique belge Tertio. Nous y revenons en détail au début de ce journal. Israël reconfine sa population devant la multiplication des nouveaux cas de Covid-19. Les autorités de l'État hébreu ont pris des mesures drastiques alors que s'ouvrent ce soir les festivités juives avec la célébration de Rosh Hashanah, le nouvel an juif. Nous irons à Tel Aviv. Dans ce journal également, nous entendrons l'invitation du nonce apostolique en Syrie à ne pas oublier la population civile qui souffre dans un climat d'indifférence générale. Et puis nous irons en Pologne où la coalition au pouvoir est secouée par des tensions inédites. En cause, une loi sur la protection des animaux, une loi, nous le verrons, pas si anodine que cela.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour à tous. Faire entendre la voix de l'Église sans voiler la vérité ni manipuler l'information, telle est la mission du journaliste chrétien, telle que l'a défini le pape François. Le Saint-Père recevait ce midi la rédaction de l'hebdomadaire catholique belge Tertio au Palais apostolique. Il leur a livré une réflexion sur le rôle des médias chrétiens dans des sociétés de plus en plus sécularisées. Le compte-rendu de Delphine Allaire.
Les médias chrétiens forment les consciences. C'est partant de ce postulat que le pape François a loué toute l'importance à notre époque d'une presse spécialisée dans l'information sur la vie de l'Église dans le monde. Devant les journalistes de l'hebdomadaire néerlandophone Tertio, fondé en l'an 2000, le Saint-Père a parlé d'espérance, de réflexion constructive, de voix d'intellectuels chrétiens à faire entendre, tout comme bien sûr de celle de l'Église universelle. En tant que média catholique, vous devez favoriser une culture de la rencontre, chercher une vision positive des personnes et des faits en rejetant les préjugés, à relever le pape. Pour autant, pas question de voiler la vérité, de manipuler l'information. La haute mission des journalistes catholiques, indissociable donc de l'espérance, doit assumer l'avenir comme réalité positive et possible pour que le présent devienne vivable. Surtout en ces temps de pandémie, estime le Saint-Père, qui juge important que les médias chrétiens accompagnent les personnes seules, leur apportant une parole de réconfort précieuse dans un monde de plus en plus anxiogène et sécularisé.
Delphine Allaire et plus d'informations sur cette audience et ce discours du pape François a retrouvé bien entendu sur vaticannews.va. La circulation du coronavirus toujours préoccupante dans de nombreux pays. C'est le cas notamment en Israël qui, dès ce vendredi, reconfine très largement des mesures qui doivent durer au moins 3 semaines et qui coïncident avec le début des fêtes religieuses dans l'État hébreu avec le nouvel an juif Rosh Hashanah. La correspondance à Tel Aviv de Lucas de Villepin.
Pour les 3 prochaines semaines au moins, les Israéliens ont interdiction de s'éloigner à plus d'un kilomètre de chez eux. Des barrages routiers sont installés entre les villes pour contrôler les déplacements. Les commerces non essentiels ont reçu pour ordre de fermer, tout comme les restaurants, les salles de spectacle ou de sport. Seules les pharmacies et les supermarchés pourront rester ouverts. Service minimum dans les administrations, écoles fermées, réduction des transports en commun. Dans les synagogues, les prières collectives sont limitées et les fidèles tenus de respecter la distanciation sociale. Hier soir, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, a prévenu. Ces restrictions vont sûrement se renforcer dans les prochains jours. Un confinement qui divise le gouvernement et la société. Une part importante de la population est opposée à ces mesures en raison des conséquences sur l'économie déjà très éprouvée. Résultat, des unités de l'armée israélienne sont déployées pour faire respecter les consignes. Lucas de Villepin, Tel Aviv, Radio Vatican.
Plusieurs centaines de pèlerins juifs coincés depuis des jours du côté bélarusse de la frontière avec l'Ukraine à cause des restrictions dues au coronavirus ont dû rebrousser chemin en renonçant à leur pèlerinage en territoire ukrainien. Chaque année, à l'époque de Rosh Hashanah, des dizaines de milliers de pèlerins se rendent à Ouman, dans le centre de l'Ukraine, pour se recueillir sur la tombe du rabbin Naam de Breslev, fondateur du hassidisme, l'une des branches ultra-orthodoxes du judaïsme. La situation sanitaire est également inquiétante dans plusieurs pays européens, en France notamment, où plus de 10 000 cas de contamination ont été recensés hier. Devant la recrudescence des infections Covid-19 dans le pays, le gouvernement français ne parle pas de deuxième vague, mais reconnaît que l'épidémie est à nouveau très active sur l'ensemble du territoire. C'est ce qu'a déclaré hier soir le ministre français de la Santé, Olivier Véran. Le ministre qui maintient et défend néanmoins la stratégie gouvernementale, une approche dans le cadre de laquelle de nouvelles mesures de restriction sont prises au niveau régional. L'Espagne, elle aussi, est l'un des pays d'Europe les plus touchés par la pandémie. La région de Madrid préoccupée à demandé de l'aide au gouvernement central. De nouvelles mesures de restriction qui devraient être annoncées d'ailleurs ce vendredi. Les quartiers les plus pauvres de la capitale espagnole sont parmi les plus touchés. Et puis l'épidémie n'épargne pas non plus la République tchèque où plus de 3000 cas de contamination ont été recensés ces dernières 24 heures. Des chiffres qui sont équivalents à ceux du mois de mars. Quelques 6000 des quelques 13000 réfugiés chassés par l'incendie du camp de Moria sur l'île de Lesbos sont réinstallés dans le nouveau camp. C'est ce qu'ont annoncé ce matin les autorités grecques. Depuis l'incendie du camp il y a 10 jours, la plupart des familles de migrants s'étaient installées sur un bout de route et des parkings de supermarchés. Nombre d'entre eux étaient réticents à rejoindre le nouveau camp, craignant d'être à nouveau enfermés, comme ils l'ont été pendant plusieurs mois dans ce camp de Moria. La situation humanitaire des Syriens se dégrade dans une indifférence de plus en plus grande de la communauté internationale. Tel est le cri d'alarme lancé par le cardinal Mario Zenari, le nonce apostolique à Damas. De passage récemment à Rome, où il a rencontré le pape François, le cardinal Zenari souhaite donner une voix à ceux qui n'en ont pas. « N'oublions pas les Syriens », nous rappelle le représentant du Saint-Siège en Syrie. On l'écoute.
Je voudrais remarquer que dans les discours fait au corps diplomatique les mois de janvier dernier. En parlant de la Syrie, le Saint-Père disait « La Syrie risque d'être oubliée, toutes ces souffrances après 10 ans de guerre, il y a l'oubli qui risque de couvrir la Syrie. » Et j'ai constaté, oui, on parle toujours moins de la Syrie, alors il faut en parler en racontant la souffrance de ces gens et surtout faites en sorte que la solidarité soit toujours présente, la solidarité de nous les chrétiens. Nous avons nos projets comme chrétiens, comme église, nous comme Saint-Siège. Notre stratégie est d'être avec la souffrance des gens. Et il faut reconstruire les hôpitaux qui ont été détruits. Il y a une école sur trois hors de service. Il y a plus de 2 millions d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il faut se mettre du côté des gens. Et comme église, comme Saint-Siège, le pape en premier lieu, nous n'avons pas d'intérêt économique, d'intérêt militaire. Notre intérêt sont les personnes qui souffrent.
Le cardinal Zenari, nonce apostolique à Damas, au micro de Massimiliano Menichetti. La Syrie, comme le Yémen ou d'autres théâtres de guerre qui seront abordés lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui s'est ouverte mardi. Ce grand rendez-vous annuel de la diplomatie internationale ne verra pas cette année la participation des chefs d'État à cause de la pandémie. Donald Trump a finalement renoncé à se rendre au Palais de Verre à New York. La semaine prochaine, les chefs d'État et de gouvernement se retrouveront en vidéoconférence. Sachez que le pape François, qui s'était rendu à l'ONU il y a 5 ans, verra lui un message dans le cadre de cette assemblée. La Somalie nomme un nouveau premier ministre. Le président Mohamed Abdoulaye Mohamed a nommé hier un nouveau chef de gouvernement après avoir conclu un accord avec les différents leaders politiques régionaux. Mohamed Hussein Robleu, un ingénieur civil formé en Suède, aura pour lourde tâche de mener le pays au scrutin. La Somalie est secouée depuis des années par le terrorisme et la faiblesse des structures de l'État. En Pologne, la coalition de droite au pouvoir semble vivre une crise importante suite à un profond désaccord sur une loi pour la protection des animaux. Une loi qui pourrait sembler plutôt anodine, pouvant sembler anodine donc, mais qui révèle les tensions qui couvent entre les partenaires de la coalition. Les explications de notre correspondant à Varsovie, Jasmin Lemieux-Lefebvre.
Le parti Droit et Justice auquel appartient le président Andrzej Duda ne semble pas avoir digéré un vote déroulé cette nuit à l'Assemblée législative du pays. Portant sur un projet de loi sur la protection des animaux cher au gouvernement, les élus devaient s'exprimer sur une interdiction nationale de l'élevage d'animaux pour leur fourrure et l'arrêt des exportations de viande provenant d'abattages rituels musulmans et juifs. Le projet de loi n'a reçu aucun appui des députés des partis Pologne solidaire et Entente, pourtant membres de la coalition au pouvoir avec Droit et Justice, qui a dû également gérer l'opposition d'une douzaine de ses représentants. Le projet de loi a toutefois obtenu la majorité des votes grâce au soutien des partis de l'opposition. Les ténors du gouvernement n'ont fait preuve d'aucune réserve dans leurs propos ce matin, en lançant que leurs anciens alliés devaient faire leur valise tout en agitant le spectre d'élections anticipées. Des rencontres au sommet annoncées pour la semaine prochaine permettront de constater si les menaces seront mises à exécution ou si nous assistons à un simple jeu de pouvoir. Jasmin Lemieux-Lefebvre pour Radio Vatican à Varsovie.
L'opposante Bélarusse Svetlana Tikhanovskaya demande à la communauté internationale de réagir avec la plus grande fermeté à la répression de la contestation dans son pays. Exilée depuis les élections en Lituanie, Tikhanovskaya enregistre un message pour le Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Cette semaine, l'Union européenne avait demandé une enquête approfondie sur les abus au Bélarusse. Et ainsi s'achève ce journal. Merci de nous être fidèles. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 18h. Je vous souhaite une excellente après-midi.